Alors on va bientôt rentrer dans la période de l'Avent. Noël, je vous rappelle, c'est dans un mois et deux jours, non? Un truc comme ça. Alors cette période de l'Avent nous prépare à la fête de Noël. La venue de Jésus, le Messie, si longtemps espéré par les prophètes de l'Ancien Testament, le Fils de Dieu qui est venu cheminer parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous, comme Matthieu nous le présente. Comme vous savez, ou vous ne savez pas, avant vient du mot latin adventus. J'ai jamais fait de latin, merci Google. Adventus pour avènement ou venue. Alors cette période de l'Avent devrait nous faire réfléchir au retour de Jésus. Le retour de Jésus à la fin des temps. Alors, on vient de prendre la scène, et l'apôtre Paul nous dit quoi, quand on prend la scène? Qu'on annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis Dino, dans ce qu'il nous a lu, au verset 7, il est dit de notre foi qu'elle est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, ça marche ça. Si la fête de Noël nous permet de nous souvenir, avec reconnaissance en tout cas, et avec joie, de la venue de Jésus dans le monde, cette période nous rappelle, nous prépare à la venue du Christ qui est encore à venir. Son retour, non pas dans l'humilité de l'étable, mais dans la gloire. Jésus n'est pas le bébé dans la crèche qui revient tous les ans. Jésus ne vient pas à Noël, on fête juste son anniversaire à Noël. Fils de Dieu de toute éternité, Jésus est venu dans le monde et maintenant, il est retourné auprès de son Père, il siège à sa droite. Et de là, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Noël, c'est une très belle fête, parce que Noël marque la manifestation du salut de Dieu, du salut pour tous les hommes. Mais pour qu'il ne soit pas que décoration, cadeau, bon repas, même parfois bon sentiment, nous devons le situer, et notre vie aussi, dans toute la grande œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas encore la fin. Alors on va lire un passage assez long dans Matthieu, au chapitre 24. On lira les chapitres 1, les versets 1 à 8 et ensuite les versets 29 à 44. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et puis on reprend au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il me semble qu'on parle rarement du retour de notre Seigneur. Serait-ce qu'il nous semble que cette perspective tarde à venir ? Je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je ne vais pas vous la chanter. Mais dont les plus anciens se souviennent certainement. Ce temps où une de nos sœurs, qui a rejoint notre Seigneur depuis longtemps, finissait sa prière au culte par « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt ». Est-ce aussi notre prière ? Alors, si vous le permettez, je vais faire quelques remarques sur le retour de Christ en général, avant de revenir au texte de Matthieu. Pour ce que nous enseigne le Nouveau Testament, la croix, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte et le retour de Christ ne font qu'un seul événement. Un événement en quelque sorte étendu dans le temps comme on étendrait un élastique. Si le Christ est ressuscité, s'il est monté au ciel, il ne peut que clore l'histoire de ce monde par son retour aux yeux de tous. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est dans les Actes. C'est pourquoi nous sommes dans les derniers temps, puisque nous n'attendons aucune autre intervention de Dieu pour le salut du monde. Tout a déjà été accompli. Nous n'attendons que sa manifestation finale. Dans ces jours qui sont le dernier, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Bien sûr, la croix, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ sont des événements historiques qui sont passés, qui sont derrière nous. Et son retour, non moins historique, c'est juste qu'il est devant nous et il n'est pas encore arrivé. Et c'est l'ensemble de l'œuvre de Christ qui fait l'objet de notre foi. Croire en la résurrection de Christ, mais ne pas croire à son retour, serait un non-sens. Non-sens qui tronquerait dangereusement le message de l'Évangile, parce que son retour confirmera l'identité de Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, et son autorité universelle. C'est aussi à ce moment que les prophéties de l'Ancien Testament, de tous ces prophètes, seront entièrement accomplies. Et le retour de Christ marquera la victoire finale de l'œuvre de la croix de Christ sur le mal et la mort, le salut complet des croyants et la manifestation complète et entière du royaume de Dieu. Alors on peut comparer ou essayer de comparer le retour de Christ avec sa première venue. Sa première venue, c'est faite de façon discrète. Dans la Palestine du 1er siècle, un tout petit morceau de l'Empire romain. Sa deuxième venue se fera de façon éclatante et universelle aux yeux de tous les humains. Sa première venue nous appelle à la foi pour reconnaître la seigneurie de Christ. Lors de sa deuxième venue, sa seigneurie s'imposera à tous. Sa première venue s'est inscrite dans le déroulement de l'histoire. Sa deuxième venue clora définitivement l'histoire. Sa première venue marquait la patience de Dieu et ouvrait le temps du salut pour tous les hommes. Sa deuxième venue marquera la fin de l'offre du salut et le moment du jugement de Dieu. Et sa première venue s'est caractérisée par l'humilité, la souffrance et le service de Jésus. Sa deuxième venue sera la manifestation de sa gloire et de sa royauté. Ça ne veut plus marcher. Quant au moment du retour de Christ, ce moment qui intrigue tant les hommes et qui provoque tant de spéculations, malgré les leçons de l'histoire, de dates annoncées et dépassées, l'an 1000, l'an 2000, et puis d'un tas d'autres, c'est vers le texte de Matthieu qu'on va se tourner maintenant. En effet, comment réagir face à des gens qui prédisent le retour imminent de Jésus, qui interprètent les événements de notre monde comme les signes de son avènement? Or, les chapitres 24 et aussi 25 de Matthieu forment un autre sermon sur la montagne, puisque c'était sur le mont des Oliviers. Jésus était assis face au temple dont il vient d'annoncer la destruction. Alors dans Matthieu, on trouve un traitement plus complet de l'avènement de Jésus que dans les autres évangiles. Et puis Matthieu accole plusieurs paraboles sur ce même thème au discours qui est beaucoup plus direct que dans les autres évangiles. Pour les disciples, la fin du temple devait représenter la fin du monde, le temple occupant dans la pensée juive une place centrale. Et puis ils pensaient que ce serait aussi la destruction du temple, le moment de la manifestation du règne de Jésus. Ils n'avaient pas encore appris que Jésus était plus grand que le temple, que c'était en lui, Emmanuel, Dieu avec nous, que Dieu manifestait sa présence avec les hommes et non dans le temple. Peut-être même on peut penser que Jésus, en parlant ici du temple, pensait aussi à sa mort. Comme il dit dans Jean, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple, de son corps. Les disciples n'avaient pas encore compris que le projet de Dieu pour le salut du monde se poursuivrait par la prédication de l'Évangile bien après sa mort. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée dans toute la terre habitée, alors viendra la fin. C'est Matthieu 24, on n'a pas lu, c'était le verset 14. Dans ce chapitre, Jésus est en train de démêler pour nous l'histoire, ou d'étendre sur le temps la période qui va de sa mort à son retour en gloire. C'est ce qui lui permet de dire « cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive ». Sa mort et la destruction du temple signalent le début de la fin. Mais ce n'est pas là la fin de la fin. Et Jésus répond aux disciples qui lui demandent le signe de son avènement. « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. La première génération l'a vu, nous aussi, non? Et depuis la première génération, c'est le signe du début de la fin. Et cela veut dire que Jésus est proche. Il est à la porte. Mais ces signes ne sont que le commencement des douleurs de l'enfantement. Enfantement d'un monde nouveau, ce n'est pas encore la fin. C'est pourquoi on doit se tenir prêt. Toujours vivre, sachant qu'il est proche. À la porte. Et il n'y a pas d'autre signe à attendre pour nous avertir de son avènement. Interpréter les signes de l'histoire est un exercice bien périlleux. Un exercice qui nous exposerait à bien des dérapages et à des naufrages dans notre foi. Le ciel et la terre passeront, affirme Jésus, c'est inévitable. La fin du monde viendra. Comme la naissance s'annonce, une fois le travail de l'accouchement commencé. Il ne faudrait pas nous laisser berner par le temps qui passe et penser que notre monde est éternel, que le retour de Christ n'est qu'une métaphore. Ce qui est éternel, c'est les paroles de Jésus qui, elles, ne passeront pas. C'est donc à ces paroles qu'il faut prêter attention, dans ce monde qui lui passera pour nous préparer à l'avènement de Jésus dans sa gloire. Mais en ce qui concerne la date de la fin, Jésus est clair. Et ça devrait nous servir d'ancrage serein face aux spéculations qui surgissent très régulièrement dans les cercles religieux et chrétiens en particulier. Jésus dit pour ce qui est de jour et de l'heure, on peut dire aussi de l'année, du siècle. Personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors pour moi, il me semble qu'il s'agit moins d'une affirmation théologique sur les limites de la connaissance de Jésus en tant que Fils de l'homme, qu'une façon de nous prévenir que toute rumeur de connaissances cachées, révélées secrètement par Jésus, un tel disciple ou par des anges, un mystique quelconque, créerait des théories, des spéculations que les gens, dont les gens raffolent. C'est l'idée de surprise, de ne pas pouvoir anticiper l'avènement de Jésus qui gouverne les versets suivants. Le retour de Jésus surprendra pas seulement les non-croyants, mais aussi ceux qui l'attendent. « Soyez prêts, dit Jésus. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Et encore, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Certains textes du Nouveau Testament semblent indiquer une augmentation de l'incrédulité, du mal, de la persécution avant l'avènement de Jésus. Paul à Timothée dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Enfin, la comparaison avec le temps avant le déluge où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, montre que l'on ne s'aperçoit de rien jusqu'au moment du retour de Jésus. Il arrivera, nous dit le texte, dans nos activités quotidiennes. Deux hommes au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Alors, je ne sais pas si les femmes moulent beaucoup à la meule dans nos régions, mais peut-être en Afrique, c'est pas impossible. Hein. Alors, c'est important à noter, car souvent les gens ou les sectes ou des sectes prétendent connaître la date du retour de Christ ou de la fin du monde, plus généralement, et incite les gens à abandonner leur travail régulier, à se rassembler pour se préparer à l'événement. Prenez garde que personne ne vous égare, nous dit Jésus. Toutefois, il nous dit de veiller. Mais veiller, selon Jésus, n'est pas une interprétation des événements de notre temps. On veille par le service, la vigilance et la prière. Prenez garde, veillez et priez par vous, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Alors c'est entre autres ce que les paraboles qui sont à la suite de ce sermon nous diront. Et on ne va pas les lire parce que c'est long. Mais je vous encourage à les lire et à réfléchir un peu dessus. Alors pour conclure, êtes-vous prêt pour Noël? La fête se prépare, il vous reste certainement des invitations à faire, des courses, des cadeaux à choisir. Mais au milieu de tout ce tourbillon d'activités de cette période de l'année, êtes-vous prêt pour l'avènement de notre Seigneur? Alors cette semaine, vous pouvez relire les chapitres de Matthieu et puis méditer un peu dessus. Et que le Seigneur vous accompagne pendant cette période festive, vous accompagne à mieux vous préparer, à mieux nous préparer pour son avènement dans l'espérance et la joie. Amen.